Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement sur votre application favorite de podcast. Regard aujourd'hui sur un concept assez récent mais de plus en plus présent dans les relations internationales et stratégiques, l'Indo-Pacifique comme nouveau théâtre d'influence dans un contexte de compétition de puissance exacerbée entre la Chine et les États-Unis. L'Indo-Pacifique, une idée lancée en 2007 par le Premier ministre japonais Shinzo Abe à l'occasion d'une visite en Inde, conscient de l'interdépendance entre les océans Indien et Pacifique, une idée à laquelle se sont joints New Delhi, Washington, Canberra et Paris, suivie plus tardivement par l'Indonésie et l'ASEAN dont elle fait partie. Inde, Australie, États-Unis et France, autant de puissances qui disposent de vastes domaines maritimes, connaissent les vulnérabilités de la région, zone de transit névralgique pour le commerce international et qui ont de nombreux intérêts à sauvegarder face à une Chine dont l'intransigeance sur les questions de souveraineté maritime et le projet de route de la soie cristallisent l'inquiétude régionale. Que recouvre l'Indo-Pacifique en termes de réalité géopolitique? Quels enjeux stratégiques lui sont attachés? Quel rôle pour les puissances européennes et la France dans cette vaste zone de la planète? Quels défis et quelles opportunités pour l'Indo-Pacifique? Le concept fait débat. Est-il durable? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Marianne Perrandoise, chercheure Asie et sécurité maritime à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, coordinatrice du grand dossier de la revue diplomatique consacrée à l'Indo-Pacifique. Marianne Perrandoise, bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de deux ouvrages, l'un sur le Japon en 100 questions et la Chine en 100 questions aux éditions Thaïlandier. Bonjour.
Bonjour.
David Camerou, chercheur honoraire aux séries de Sciences Po, professeur invité à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. David Camerou qui est franco-australien, d'où votre accent, comme on pourra s'en apercevoir au cours de l'émission. Bonjour David Camerou.
Bonjour.
Et Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales et auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre histoire du 20e siècle aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
De la mer de Chine méridionale à la péninsule coréenne, en passant par le détroit de Taïwan, les foyers de tension ne manquent pas en Asie. La compétition pour le leadership régional continue de s'affirmer, faisant émerger des concepts tels que les nouvelles routes de la soie chinoise et l'Indo-Pacifique libre et ouvert. Alors certains pensent que l'Indo-Pacifique dissimule la prétention américaine à contenir la Chine, la construction d'une alliance australienne, la quête de grandeur de l'Inde, un plan du Japon pour gagner en influence, une volonté indonésienne de s'affirmer, voire des stratégies maritimes européennes de présence en Asie. La Chine se sent menacée par le terme. Que recouvre précisément ce concept en termes de réalité géopolitique? Finalement, de quoi est-il question avec l'Indo-Pacifique, Valérie Niquet?
Alors effectivement, il est question un peu de tout ce que vous avez mentionné. Au-delà de ces stratégies qui sont différentes mais en même temps complémentaires, si on met évidemment de côté la Chine, le concept Indo-Pacifique, alors il est évidemment géographique puisqu'il comprend tout un espace qui irait des côtes de l'Afrique ou même de l'Afrique pour certains jusqu'à l'océan Pacifique, ce qui est un élément essentiel pour nous en France et en Europe, pour convaincre en tout cas nos alliés ou nos partenaires européens que l'Indo-Pacifique fait sens et est important au-delà des intérêts économiques ou de sécurité. En France, nous sommes le seul pays européen à avoir des intérêts directs à la fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, ce que nous rappellent souvent des acteurs dans la région, notamment le Japon. Mais au-delà de tout ça, et dès les origines en 2007, ce qui est important, c'est de noter qu'il y a la dimension de sécurité maritime qui est très importante, qui est liée aux intérêts économiques. Il y a la dimension évidemment aussi de vouloir rappeler notre modèle fondé sur des valeurs communes de démocratie, de libre circulation sur les mers, de respect du droit, de non-recours à la force, et tout cet ensemble de valeurs est en quelque sorte ce qui cimenterait cette réflexion sur l'Indo-Pacifique face à un projet chinois qui évidemment lui est fondé sur des valeurs beaucoup plus autoritaires et une volonté d'expansion au travers de ce projet grandiose de route de la soit que la Chine avait mis en avant.
Alors en studio, Marianne Perrandoise, Pierre Grosser et David Cameroux. Ce concept, il n'est pas vraiment nouveau. On parlait avant de l'Asie-Pacifique, Pierre Grosser.
Oui, alors le terme Asie-Pacifique est monté en force à partir des années 70 et il y a eu une institution à partir de 89, poussée en avant notamment par l'Australie, qui s'appelait l'APEC, donc qui était très largement Asie-Pacifique, qui était un moyen finalement, notamment pour les puissances blanches, entre guillemets, de ne pas laisser l'espace asiatique se développer seul et de pouvoir se connecter à ces dimensions de développement. Mais il faut bien voir que la réflexion sur l'Indo-Pacifique est une réflexion finalement relativement ancienne, même si on n'utilisait pas forcément ce terme, mais on l'utilisait quand même. On trouve des articles scientifiques français des années 60 qui, parlant des voyages des explorateurs ou de Monsieur Poivre, par exemple, à travers ce qui est aujourd'hui l'Indonésie jusqu'à l'Afrique, on parlait d'Indo-Pacifique. Mais en fait, on voit bien que la stratégie britannique impériale avait une dimension indo-pacifique, que la France avait aussi une dimension indo-pacifique, c'est-à-dire que depuis Madagascar jusqu'à l'Indochine, en passant par Pondichéry et en allant encore vers le Pacifique Sud, on pensait cet espace de manière interconnectée. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'on utilise ce terme, alors que pendant une partie de la guerre froide, j'y viens une partie de la guerre froide, notamment les années 70, on avait plutôt l'impression d'une séparation entre l'océan Indien d'un côté et le Pacifique de l'autre.
Alors, un concept qui n'est pas nouveau, Pierre Grosser vient de le rappeler, Marianne Perrandoise, il n'en demeure pas moins qu'on assiste à un véritable engouement. Comment l'expliquer ?
On a vraiment l'impression que ce concept qualifie les relations internationales à l'heure actuelle, et puis peut-être un regain d'intérêt quant à la sécurité maritime, parce qu'en fait, ces grandes puissances qui se sont penchées au chevet de l'Indo-Pacifique, qui ont élaboré une stratégie à dominante sans doute militaire sur ce sujet, ce sont de grandes puissances navales qui sont intéressées par la liberté de navigation, comme Valérie Niquet l'a mentionné. Et donc, ayant en tête une carte géographique et toute l'immensité bleue qui recouvre ce concept d'Indo-Pacifique, on pense à l'isolement et au besoin peut-être de partenariat de l'ensemble de ces puissances. Australie, certes, qui peut se considérer à l'écart. L'Inde, qui a toujours considéré l'océan Indien comme son arrière-cour, mais qui a fini par se sentir un peu isolée. Et je pense que cette connectivité qui est à la base du concept d'Indo-Pacifique, cet impératif qui consiste à gérer des flux maritimes, des flux économiques, des flux de personnes, eh bien, c'est imposé à ces puissances. Et je pense que la crise autour de la piraterie somalienne et donc le danger à un moment qui a été perçu sur la liberté de navigation d'un grand axe maritime, mais aussi l'intérêt qu'il y a eu à organiser la communauté internationale sur des coopérations, a peut-être incité ces puissances navales à se projeter dans un espace indo-pacifique, à raccrocher la partie Océanie et à insister effectivement sur une vision plus coopérative et plus ou moins multilatérale de l'Indo-Pacifique. Parce que vous avez mentionné les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, après le pivot asiatique de Obama, reviennent en force injectant beaucoup de naval, beaucoup de dimensions militaires, de hard power dans cette notion d'Indo-Pacifique qui n'est peut-être pas celle de l'Indonésie, qui n'est peut-être pas celle de l'ASEAN et sans doute pas non plus celle de la France, mais nous allons sans doute revenir
là-dessus. Oui, absolument,
là-dessus.
Ce sera important de détailler un petit peu et de voir quelles sont les positions de chacun. Mais évidemment, je me tourne vers vous, David Cameroux, pour vous demander de réagir à ce que vient de dire Marianne Perrandoise. Donc, sentiment d'isolement et besoin de partenariat des pays de la région, à commencer par l'Australie.
Oui, je crois qu'il y a cet aspect. Bon, d'abord, le concept de l'Indo-Pacifique est un concept ancien, en fait. On peut le dater de 1924, dans l'œuvre de Klaus Hosshova, qui est un grand géopolitologue allemand de l'époque, au même temps que Halford Mackinder en Grande-Bretagne. Donc, on a parlé pour la première fois d'Indo-Pacifique. Mais pour parler de la situation actuelle, pour les Australiens, et je dirais aussi pour les Indonésiens, le concept d'Indo-Pacifique reprend un certain nombre de besoins internes, et je dirais presque existentiels. Je m'explique. Dans le cas de l'Australie, le concept a été promu par deux ministres des Affaires étrangères, Stephen Smith du Parti travailliste et Julie Bishop du Parti libéral du centre-droite, avec l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en Australie, Peter Varghese. Et les trois étaient en fait de Perth, de l'Australie occidentale. Mm. Et l'Australie occidentale, c'est une partie de l'Australie qui était toujours négligée. Se tournant vers le Pacifique, c'était bien beau pour quand on était à Sydney, au Brisbane ou au Melbourne, mais pour les gens de Perth, ça n'avait pas tellement de sens. Donc, il y a eu depuis en fait des décennies une sorte de lobby autour des hommes politiques, des fonctionnaires et des think tanks pour pousser cette idée que l'Australie est aussi un pays qui a une façade sur l'océan Indien. Et donc, l'expression Indo-Pacifique a cette répondre à ce besoin en fait de situer l'ensemble du pays dans un contexte géopolitique. Dans le cas indonésien, parce qu'à la fois en Australie et en Indonésie, c'est en 2013 que l'expression rentre dans les documents officiels et dans le discours, dans le cas de l'Indonésie, du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Martin Natalegawa, qui parlait d'une sorte de pivot, en fait, d'un axe entre l'océan Indien et le Pacifique.
L'Australie qui pourtant avait été très vite associée à ce projet, ce qui est moins le cas de l'Indonésie. L'Indonésie...
Oui, mais dans le cas indonésien, il y a quand même une longue histoire pour définir ce pays comme un pays qui est un pays maritime, c'est l'État archipel Jique, c'est le Nusantara. Et c'est l'axe maritime entre, pour l'expression de Yudhoyono, l'actuel président, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, l'idée était là dans le discours politique indonésien. Ce qui gênait les Indonésiens, c'est le fait que le concept a été pris par les Américains pour les fins, disons, pour isoler la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en Indonésie et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est.
Alors, vous avez prononcé le nom que j'attendais. C'est la Chine qui n'avait pas été évoquée jusqu'à présent. Parce que finalement, l'idée qui se pose aujourd'hui, ou le questionnement qu'on peut avoir, c'est finalement, qu'est-ce qui domine dans la doctrine indo-pacifique aujourd'hui? Est-ce que c'est la rivalité sino-américaine ou ce souci de créer, comme ça a été évoqué jusqu'à présent, un espace indo-pacifique libre et ouvert? Valérie Niquet.
Oui, effectivement, ce qui est très important de noter sur ce concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert, c'est que il est apparu en fait progressivement, mais qu'il s'est très vite voulu une réponse à ces projets chinois, de route de la soie, qui apparaissait comme extrêmement expansionniste et à échelle mondiale, avec une croissance de plus en plus importante, dont il faudra d'ailleurs voir ce qu'ils vont donner après l'émergence de cette épidémie également globale en provenance de Chine, et qu'on peut difficilement le dissocier, même si beaucoup, par exemple les Japonais aujourd'hui, ne veulent plus utiliser le mot de stratégie pour l'Indo-Pacifique, mais insistent fortement sur le fait qu'il s'agit tout simplement d'un concept ou d'une initiative et veulent échapper à ce conflit potentiel qui émerge entre la Chine d'un côté et le reste, comme l'indiquait David Camerou, des puissances régionales qui n'ont pas envie d'être entraînées dans cette rivalité bilatérale.
Parce que finalement, c'est presque l'approche confrontationnelle des États-Unis qui inquiète le plus dans ce concept, Pierre Grosser.
Alors, la question de l'approche confrontationnelle, c'est quelque chose qu'on avait déjà interprété quand il y a eu le pivot d'Obama vers l'Asie, le fameux pivot. Et le problème, c'est que dans le pivot, il y avait toute une dimension qu'on oublie un peu, qui était d'engagement de la Chine. C'est-à-dire qu'on voulait continuer à discuter avec la Chine. C'était pas du tout une posture confrontationnelle. Alors évidemment, l'interprétation chinoise a été tout autre. Et là encore, je suis pas sûr, même avec Donald Trump, qu'on soit dans cette logique confrontationnelle, même si, évidemment, évidemment, on sait très bien que le Pentagone et même le département d'État ont considéré et considèrent aujourd'hui que l'ennemi de l'avenir, c'est la Chine. Mais on fait très attention de ne pas avoir cette posture-là. Et je crois qu'au-delà d'ailleurs de la question de la Chine, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a effectivement tout un tas de projets eurasiatiques, pas seulement la route de la soie, mais il y a tous les projets russes. Mmh. Et on sait très bien que les relations entre la Chine et la Russie sont très bons en ce moment. Et donc, la Russie n'arrête pas de parler de grande Eurasie, d'une Eurasie qui irait de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, voire Singapour. Et donc, il y a cette idée qu'on retrouve dans la géopolitique classique. Tout à l'heure, on a parlé des grands théoriciens de géopolitique classique que tout le monde a lu finalement dans les cercles d'expertise ou dans les cercles des décideurs, notamment aux États-Unis. On a l'impression de cette domination d'une masse eurasiatique par les Chinois et par les Russes. Plus, ce qui est évidemment tout à fait original, c'est qu'en plus, la Chine devient aussi une puissance maritime, ce qu'elle n'était pas traditionnellement, et a des routes de la soie maritimes. Et donc, on peut effectivement interpréter l'Indo-Pacifique comme une façon de contrer cette Eurasie continentale à prétention maritime, mais je crois qu'il faut voir que c'est quand même une minorité de pays, parmi ceux que vous avez cités, qui vraiment rentrent dans cette vision des choses. Donc effectivement, on veut éviter des débordements chinois, mais l'idée que développent les autorités chinoises, qu'on veut empêcher la croissance chinoise, qu'on veut empêcher la prospérité chinoise, je crois que c'est tout à fait excessif. Et il y a un discours indonésien sur l'inclusivité, donc il faut surtout que la Chine soit à l'intérieur. Un discours indien sur l'inclusivité aussi. Aujourd'hui, ça a été rappelé par Valnike, les Japonais ont des bonnes relations avec les Chinois, alors que quand, en 2013, le slogan a été lancé d'Indo-Pacifique, les relations étaient assez mauvaises avec la Chine. L'Inde aussi, depuis un an et demi, depuis le protocole de Wuhan, justement, il y a eu deux rencontres en 2017 et 2019 qui rapprochent aussi la Chine et l'Inde et font un dialogue. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de pays qui affirmerait que l'Indo-Pacifique est un moyen de contenir la Chine.
Alors, tout de même, il est intéressant, on est en 2020, année électorale aux États-Unis, avec cette question qui se pose de savoir si finalement Donald Trump ne va pas durcir son discours et demander aux uns et aux autres de choisir. Marianne Perrandoise.
Je pense que l'ambiguïté justement de ce concept d'Indo-Pacifique qui ne reflèterait que les vicissitudes de la relation États-Unis-Chine et donc cette compétition de puissance, il faut dire les choses, se retrouve dans la difficulté et les vicissitudes du dialogue à quatre, donc appelé Quad, qui justement a du mal, hésite entre un dialogue qui serait purement politique et un dialogue qui déboucherait sur quelque chose qui ressemblerait davantage à une alliance et en tout cas à une coopération opérationnelle. Et on voit bien au sein de ce Quad auquel participent de façon plus ou moins proche l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, ces tensions autour de la définition et l'objectif de ce format A4 que les États-Unis aimeraient voir teinté d'une connotation beaucoup plus militaire, affirmative et pourquoi pas une alliance qui n'ose pas dire son nom, une Australie qui hésite et une Inde qui de toute façon fait blocage et refuse d'être enfermée dans cette vision d'une alliance opérationnelle qui ne viserait qu'à contrer la Chine et la montée en puissance maritime notamment de la Chine sur les théâtres océan Indien et sur le théâtre Pacifique où elle se fait effectivement de plus en plus visible et quelque part menaçante avec ce même format de route de la soie effectivement qui s'adresse aux États insulaires qui effectivement se sentent certainement très, très vulnérables face à la Chine.
Le Quad donc en anglais hein. Quadrilateral Security Dialogue pour un dialogue sécuritaire quadrilatéral qui rassemble, vous l'avez dit à l'instant, Marianne Perrandoise, l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis. David Camerou, pour terminer cette première partie d'émission, une réaction par rapport à ce qui s'est dit ?
Il ne faut pas oublier l'aspect label. En fait, pour Donald Trump, il fallait un autre concept qu'Asie-Pacifique. L'expression Asie-Pacifique est très liée au Parti démocrate, à Clinton et Obama. Et en fait, c'est le Premier ministre Abe qui a proposé à Donald Trump d'utiliser une autre expression. Et donc, maintenant, on sait que ce qu'il souhaite faire, Trump, c'est de faire les choses différentes qu'Obama. Donc, il a son propre concept pour la région. Le seul résultat concret pour l'instant, c'est le changement du nom de commandement à Honolulu, qui était le commandement Asie-Pacifique, et maintenant le commandement Indo-Pacifique. Mais rien d'autre dans les termes de ses responsabilités a changé, si j'ai bien compris.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités David Camerou, Marianne Perrondoise, Valérie Niquet et Pierre Grosser après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le concept d'Indo-Pacifique. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Marianne Perrondoise, chercheur Asie et Sécurité Maritime à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Coordinatrice avec Maud Kessard du Grand Dossier de la Revue Diplomatie consacrée à l'Indo-Pacifique. David Camerou, chercheur honoraire aux séries de Sciences Po, professeur invité à l'Université Nationale du Vietnam à Hanoï. Et Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales et auteur de l'histoire du monde, se fait en Asie une autre histoire du XXe siècle aux éditions Odile Jacob. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission ce questionnement autour de la doctrine indo-pacifique avec la question de savoir quelle est la tendance qui domine. Est-ce que c'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine ou ce souci de créer un espace indo-pacifique libre et ouvert? Si on devait mettre des catégories, des camps, qui adhèrent à quoi dans ce grand concept indo-pacifique? On a nommé des pays comme l'Australie, le Japon, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, l'ASEAN, il y a aussi les petits États du Pacifique. Comment s'organisent les uns et les autres dans ce grand concept, Marianne Perrondoise?
Je pense qu'il y a beaucoup de nuances, effectivement, dans cette vision qui apparaît très partagée de l'Indo-Pacifique. Alors, bien sûr qu'il y a une perception des menaces sur la liberté de navigation, sur la protection des flux maritimes, mais en même temps, il y a le souci de ne pas se sentir partie prenante et sommée précisément de prendre parti. Donc quand même, ce qui affleure dans le concept d'Indo-Pacifique en creux, c'est cette compétition de puissance entre les États-Unis et la Chine. Et donc vous avez effectivement un Japon qui a pu beaucoup mettre en avant la diplomatie des valeurs et cette vision d'un Indo-Pacifique Pacifique libre et ouvert. Mais ouvert, cela veut dire protégé contre tout un ensemble de menaces qui tiennent tout autant à la piraterie, à des activités illégales, qu'effectivement une emprise trop forte de la Chine et de la marine chinoise sur certains couloirs de navigation. Vous avez une vision de l'Indo-Pacifique indienne qui insiste beaucoup sur le multilatéralisme et qui espère voir se développer des partenariats, une coopération, car encore une fois, même si l'Inde est très inquiète de la poussée chinoise, et ça n'est pas nouveau, dans l'océan Indien, même si elle considère cette coopération entre le Pakistan et l'Inde et les emprises portuaires, l'installation évidemment de la Chine à Djibouti comme exclusivement dirigée contre elle, eh bien elle s'efforce quand même d'y répondre d'une façon plus ou moins ouverte et coopérative. Et pour parler de la France, l'Indo-Pacifique pour elle, c'est une politique d'influence mais qui repose sur la recherche de nouveaux ou la consolidation de nouveaux partenariats et sans doute une vision renouvelée de l'espace océanien. Vous avez parlé des pays insulaires et c'est vrai que les pays insulaires ont eu tendance à se sentir marginalisés depuis un certain nombre d'années et que voir au fond la Chine leur faire la cour, leur proposer des investissements pour la modernisation de leurs infrastructures, mais ça répond effectivement à un besoin. Encore faut-il se protéger effectivement de trop d'influence chinoise. Et je pense que l'Australie et la France, dans cette nouvelle vision et nouvelle approche qu'ils peuvent avoir du Pacifique Sud, donc de l'Océanie, sont à même effectivement de répondre à ce sentiment de vulnérabilité et encore une fois d'isolement qu'ont pu percevoir certains acteurs qui ont rejoint finalement l'Indo-Pacifique parce qu'ils y trouvaient une utilité stratégique, économique et politique et certainement peut-être une perception ou une capacité à s'agréger à une vision plus coopérative et plus régionale de leur situation.
Alors, l'Indo-Pacifique est entré finalement dans le vocabulaire français assez tard, hein, le 27 août 2018, à l'occasion d'une conférence des ambassadeurs et à travers un discours du président Macron. Pierre Grosser.
En fait, cette idée est montée dans les années précédentes, notamment au ministère de la Défense, et a été, entre guillemets, achetée par Macron quand il est arrivé. Et pourquoi ? Ça, c'est une question sur laquelle il va falloir réfléchir, mais qui maintenant est un enjeu absolument central pour la France, mais avec des questions que l'on retrouve finalement dans d'autres pays, c'est-à-dire quelle est la priorité, quels sont les moyens évidemment que l'on peut consacrer, puisqu'on sait quand même que la France, entre l'Afrique, le Moyen-Orient, etc., on a quand même un certain nombre d'obligations. C'est le cas des États-Unis, c'est-à-dire que on parle beaucoup aux États-Unis de ce fameux rebalancing, de pivot, etc., mais on n'en a pas vu énormément les effets, on a vu quelques petits effets, et tout le problème est de savoir si les États-Unis, oui ou non, vont se réinvestir au Moyen-Orient. On parle beaucoup d'un Moyen-Orient post-américain, du départ des États-Unis, du Moyen-Orient, etc. Mais on ne le voit pas. Il y a toujours cette ombre portée d'une guerre possible contre l'Iran. Et finalement, la grande question que l'on se pose aux États-Unis, maintenant qu'on a défini la Chine comme étant le grand défi à long terme, et donc on imagine même mener une guerre, la seule guerre, ça serait contre la Chine, c'est comment se débarrasser finalement de l'épine et du boulet du Moyen-Orient. Donc il y a toujours, si vous voulez, cette question, c'est que l'Indo-Pacifique est important, mais qu'est-ce qu'on nous met comme moyen ? Je précise que dans le cas américain, il y a quand même une géographie de l'Indo-Pacifique qui est assez différente de la nôtre. C'est-à-dire que le Moyen-Orient, l'Afrique ne sont pas du tout inclus dans l'Indo-Pacifique et donc ils ont une définition qui est beaucoup moins large de cet Indo-Pacifique.
Alors qu'on voit précisément les pays du Golfe développer une stratégie Indo-Pacifique, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Valérie Niquet, qu'est-ce que l'on peut dire de la façon dont la doctrine finalement Indo-Pacifique a évolué au Japon ?
Alors au Japon, effectivement, ça a commencé véritablement avec une volonté de construire une différenciation très sensible entre d'un côté les pays démocratiques qui partagent un certain nombre de valeurs face à une puissance chinoise auquel le Japon est directement confronté, mais pas uniquement le Japon. Et pour revenir sur ce que chacun met dans l'Indo-Pacifique, c'est vrai qu'il y a énormément de nuances et que personne ne veut être engagé de force dans un conflit bilatéral entre d'un côté les États-Unis et la Chine. Mais on voit bien aussi, y compris en Indonésie, encore très récemment avec les tensions au large des Natuna avec la Chine, que tous ces pays-là s'arrangent aussi de ce concept qui leur permettait de construire une sorte d'alliance sans le dire, en quelque sorte s'agréger à une puissance susceptible éventuellement de venir à leur secours. Mais cette vision confrontationnelle au Japon, en fait, quand on parle avec les responsables japonais, n'a pas disparu. Il n'y a aucune illusion sur le rôle de la Chine à long terme au Japon. En revanche, pour des raisons de stratégie économique notamment, l'idée était qu'il était plus positif pour le Japon ces derniers mois en tout cas, de tenter une normalisation ou un rapprochement avec Pékin, essentiellement d'ailleurs pour des raisons économiques. Encore une fois, les choses peuvent beaucoup évoluer en fonction de l'évolution de cette épidémie qui elle aussi s'étend d'une manière très globalisée et va devenir un des facteurs essentiels d'analyse de la puissance chinoise et de la manière dont chaque pays se positionne par rapport à Pékin. Donc on a eu cette évolution au Japon, mais qui est peut-être plus dans le discours à la recherche très pragmatique d'intérêt, d'accès au marché chinois et d'éviter des tensions trop fortes avec Pékin, notamment en année ou qui en théorie devrait être celle des Jeux Olympiques. Mais sur le fond, ce concept d'Indo-Pacifique, quels que soient les termes qu'on utilise, conserve cette mission essentielle qui est d'apporter une réponse à l'émergence d'une Chine qui inquiète, non pas l'émergence de la Chine en soi, mais de la Chine telle qu'elle existe aujourd'hui. Par ailleurs, pour en revenir à l'Europe et à la France est la seule d'ailleurs puissance européenne à avoir une stratégie de défense pour l'Asie-Pacifique, donc à avoir véritablement, y compris dans les concepts, adhéré à cette idée qui correspond à notre réalité. Elle permet aussi d'engager beaucoup plus qu'auparavant l'Union européenne dans des préoccupations ou des problématiques qui jusqu'à maintenant et restent encore pour beaucoup de pays, pays, mais on voit bien qu'il y a en Europe un intérêt renouvelé pour une zone qui va bien au-delà des frontières immédiates de l'Union européenne.
Alors, on poursuivra sur l'importance que l'Europe s'intéresse à l'Indo-Pacifique. David Camerou, pour en revenir à la région, les pays de l'ASEAN ont longtemps hésité à se rallier à l'idée Indo-Pacifique. Ils l'ont fait sous l'impulsion de l'un de ses États membres, l'Indonésie. La vision de l'ASEAN, je parle sous votre contrôle, est davantage celle d'un unilatéralisme inclusif, évitant donc de prendre parti dans ce que l'on évoquait précédemment avec cette notion de conflictualité entre les États-Unis et la Chine. Et ce n'est qu'en juin 2019, donc tout récemment, que l'ASEAN s'est dotée d'une vision Indo-Pacifique. Qu'est-ce que l'on peut en dire ?
Je crois que le mot-clé, c'est inclusif. Dans les déclarations indiennes, un peu dans les déclarations australiennes et françaises, on a ce mot, un Indo-Pacifique inclusif. C'est-à-dire avec la possibilité pour la Chine de trouver sa place dans cet Indo-Pacifique. Les Américains refusent d'utiliser le terme inclusif. Alors, pour les pays de l'ASEAN, je crois qu'il y avait un papier qui a été publié récemment par l'Institut Brookings, intitulé « Don't ask us to choose », ne nous demande pas de choisir. Et je crois que, historiquement, on peut aller même très loin à l'époque du Siam au 19e siècle, le choix des pays de l'Asie du Sud-Est, le choix est de ne pas choisir. Mmh. Et surtout de ne pas se trouver coincé dans la rivalité sino-américaine. Donc ce qu'ils ont fait les Indonésiens en promouvant leur propre concept de l'Indo-Pacifique, c'est d'essayer d'avoir une vision pour l'ensemble des pays de l'ASEAN qui sont divisés, il faut le dire quand même, entre les régimes clients de la Chine comme le Cambodge ou le Laos et d'autres États qui sont beaucoup plus hostiles comme le Vietnam. Donc de trouver une espèce d'équilibre et faire une vision qui sera assez englobant. Et cette vision englobant, c'est une Indo-Pacifique où l'ASEAN est centrale. Mmh. C'est la grande obsession de l'ASEAN d'être toujours centrale dans tout ce qui est construction régionale. C'était le cas pour l'APEC, c'était le cas pour l'East Asia, le sommet de l'Asie orientale, l'East Asia Summit, le ASEAN Regional Forum, le forum de l'ASEAN. Il faut que l'ASEAN soit centrale. Mmh. Et l'ASEAN restait centrale un peu par défaut, parce que ça arrangeait tout le monde, les Américains, les Chinois, les Japonais, qu'il y a un organisateur, un secrétariat un peu neutre, un peu apolitique pour justement promouvoir le dialogue et les différents forats.
Alors, deux choses pour aller un peu plus loin. Marianne Parandoise, d'abord, vous souhaitez réagir?
Je voudrais réagir sur cette notion de centralité de l'ASEAN, qui est le point d'équilibre, en fait, de toutes les constructions indo-pacifiques, quelles que soient les arrière-pensées qui sont derrière, que ce soit des arrière-pensées plus militaires, plus opérationnelles du côté des États-Unis. Et on le voit dans la mise en place d'un certain nombre de processus. J'ai en tête, évidemment, les opérations de liberté de navigation, les fameuses FONOP, ce que met en œuvre dans la zone les États-Unis, avec la volonté affichée d'assurer la liberté de navigation en mer de Chine du Sud. Car effectivement, c'est un point de tension qui va grandissant et l'on voit bien la confrontation entre la Chine et les États-Unis de façon très, très crue en observant effectivement une carte de la mer de Chine du Sud et l'augmentation des emprises chinoises. C'est vrai qu'il a construit des îlots artificiels. Alors la notion, elle n'est pas très propre. On reconnaît le titre d'îlot à ces constructions et le droit de la mer, évidemment, ne l'accorde pas. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière l'Australie, derrière la France, l'Inde et leur souci d'être présent dans tout un ensemble de dialogues, de partenariats autour de l'ASEAN, on voit bien ce souci d'éviter de voir la région penché d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire trop fortement en direction d'une puissance états-unienne qui inquiète, parce qu'au fond, la garantie de sécurité qui peut être accordée ou l'alignement implicite, les déclarations de Donald Trump ou de son secrétaire Pompeo à chaque déplacement dans la zone ne rassure pas, bien au contraire, et on le voit très clairement. Et donc, du côté de l'Union européenne, il y a le souci, effectivement, de maintenir une stabilité stratégique nécessaire dans une région où effectivement la plupart des échanges commerciaux sont extrêmement importants pour l'entité Union européenne. On n'a pas parlé suffisamment de cette course de l'Union européenne vers l'ASEAN avec la déclinaison de tout un ensemble de partenariats économiques et stratégiques, notamment en direction du Vietnam. Et ça, c'est très intéressant de voir que le Vietnam est en train lui aussi de jouer la carte des différents partenariats, que ce soit effectivement vers les États-Unis. Il y a actuellement, je crois, l'escale d'un porte-avions. Je crois que c'est la deuxième escale du porte-avions américain au Vietnam. Ça envoie des signaux.
Alors, centralité de l'ASEAN et puissance états-unienne qui inquiète et qui pose question. Le président Trump ne s'est pas déplacé au sommet de l'ASEAN à l'automne dernier. Donc, il y a tout de même cette duplicité de vision américaine. C'est important, quels moyens on donne à tout cela. Peut-être on peut s'arrêter juste deux secondes sur le cas des Philippines, David Camrou, où on a vu finalement le gouvernement philippin tourner le dos de façon assez brutale aux États-Unis.
Oui, dans le discours, mais la réalité peut-être est autre chose, parce que les Philippins avaient besoin des Américains pour reconquérir la ville de Marawi au Mindanao quand il y avait une attaque terroriste. Et l'alliance avec les États-Unis est très populaire, en fait, aux Philippines. Et donc, Duterte, le président philippin, est un peu en porte-à-faux avec ses propres électeurs et aussi, surtout, avec les militaires philippins qui sont, eux, formés aux États-Unis et qui restent très pro-américains. Donc, Duterte essaie de jouer un peu un double jeu, parce que la gauche traditionnelle philippine est anti-américaine, mais c'est une toute petite minorité. Donc, il joue un peu pour faire plaisir à cette gauche dans son discours populiste, mais en même temps, derrière le discours du président Duterte, il y a toute l'action du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Défenses qui maintient l'alliance, en fait, de facto avec les États-Unis.
Pierre Grosser.
Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a eu l'impression avec Obama et même encore avec James Mattis, qui était secrétaire à la Défense aux États-Unis, qu'il y avait une stratégie relativement intelligente. C'est-à-dire que par rapport à la stratégie de guerre froide qui était de s'appuyer sur des solides alliances qui étaient nées au tout début des années 50, les Américains à la fois menaient des dialogues avec des pays qui n'étaient pas des alliés. On peut parler de l'Inde, quand même une des grandes évolutions stratégiques depuis 25 ans, c'est le rapprochement entre les États-Unis et l'Inde. Ils sont rentrés dans pratiquement toutes les organisations régionales, hein, alors qu'au départ, sur le multilatéralisme régional, le rôle de l'ASEAN, ils avaient l'impression que c'était un endroit où on parlait beaucoup, il se passait pas grand-chose. Donc ils ont fait cet effort de rentrer. Obama allait régulièrement justement à ces rencontres de l'ASEAN. Ils ont développé des formes de mini-latéralisme aussi avec le Quad, etc. Voilà, au-delà des bonnes alliances traditionnelle, on avait quand même une stratégie qui était beaucoup plus fine, beaucoup plus complète, etc. Et effectivement, avec l'administration actuelle, on continue un petit peu tout cela, mais sans vraiment de vision d'ensemble. Les alliances bilatérales traditionnelles, ils sont en train quand même de les secouer quelque peu avec les questions commerciales à l'égard du Japon, à l'égard de la Corée du Sud, etc., etc. Donc, c'est plutôt l'imprévisibilité de l'administration actuelle qui pose problème, alors qu'il y a la possibilité d'avoir une stratégie beaucoup plus intelligente qui, à mon avis, avait été dessinée dans les années 2010.
Valérie Niquet, il y a un pays qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est la Corée du Sud.
Ce qui est certain, c'est que la Corée du Sud, elle, est dans une situation qui est très particulière. La division de la péninsule coréenne, la menace en provenance de Corée du Nord, la volonté également de privilégier un rapprochement entre les deux Corées. Et la Corée du Sud semble totalement focalisée sur d'autres types de rivalités. D'un côté avec le Japon, une volonté de se rapprocher avec la Chine, mais toujours assez ambiguë. Et surtout, des sentiments dans le gouvernement actuel en Corée du Sud qui mettent beaucoup l'accent sur une sorte d'anti-américanisme, même si d'un autre côté, la Corée du Sud est parfaitement consciente de la nécessité de préserver cette alliance avec les États-Unis. Donc on a l'impression qu'effectivement, la Corée du Sud est dans une sorte de problématique très régionale, beaucoup plus que dans cette vision indo-pacifique. Effectivement, cette idée d'inclusion est importante, mais on voit bien que tout de même, tout ceci se construit face, encore une fois, à l'émergence de la Chine. La Corée du Sud, me semble-t-il, est dans une problématique qui reste l'Est relativement différente et qu'on pourrait presque qualifier de marginale.
Alors très rapidement, Marianne Perrandoise et Pierre Grosser.
Très rapidement, il n'y a pas d'autonomie stratégique possible pour la Corée du Sud en dehors de cette alliance qui devient effectivement de plus en plus difficile à gérer étant donné, je dirais, le côté très dédaigneux et très mercantile que peut avoir Donald Trump quand il remet en cause le stationnement des forces américaines en Corée du Sud en exigeant une contribution plus élevée de la part de Séoul, ce qui passe évidemment très 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 mal.
Juste une chose, c'est qu'il y a quand même une politique un peu plus régionale, notamment vers le sud, et un rapprochement avec l'Inde qui est extrêmement intéressant entre la Corée du Sud et l'Inde.
Et les grands investissements dans l'Asie du Sud-Est et des Coréens.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à tous. Valérie Niquet, vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes maître de recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Marianne Perrandoise, chercheur Asie et Sécurité Maritime à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. David Camroux, chercheur honoraire aux séries de sciences et professeur invité à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, et Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Nous vous retrouvons demain pour un troisième volet autour de ce concept de l'Indo-Pacifique et nous poserons la question de sa durabilité. À demain.
Religion du monde.